On l'a vu, c'est Salomon, un grand roi, un roi dont la Bible parle, un homme extraordinaire. Il a commencé sa charge de roi avec une expérience vraiment surprenante. Dieu lui a dit, eh bien voilà, demande-moi ce que tu veux, après qu'il lui a offert des sacrifices, demande-moi ce que tu veux, je te l'accorderai. Si Dieu vous disait ce soir, voilà, demande-moi ce que tu veux, je te l'accorde. Vous aurez dit quoi? Une nouvelle voiture, une nouvelle maison, une famille plus grande, une femme ou un mari, peut-être pour certains, hein, c'est très important, et ça l'est, attention. Peut-être de remporter tous mes examens, de réussir tous mes examens, d'avoir un bon salaire, tout ça. J'aimerais vous dire, il y a mieux. Et lui, en fait, il a demandé de la sagesse. Il a demandé de la sagesse. Et tout ce qu'il a écrit dans ces choses, ça nous est utile aujourd'hui. Merci Seigneur pour la sagesse qu'il a demandée. Et un jour, il va écrire une lettre, écrire un conseil à son fils. On le voit puisque c'est écrit « Mon fils !» à son propre fils, comme David lui avait laissé un dernier message avant de mourir, lui, il voudrait laisser quelque chose à son enfant. C'est vraiment l'amour d'un père qui parle. C'est un cœur de père qui est là et qui dit « Mon fils, si les pécheurs veulent te séduire, toi, ne te laisse pas gagner. » Toi qui t'approches un peu de Dieu, le diable, il va chercher à te décourager, à te séduire. Non, ne te laisse pas gagner. Ne te laisse pas gagner. J'ai relevé ça, c'est « Te laisse pas gagner » parce que l'ennemi, les pécheurs, ils veulent t'acheter. Ils veulent t'acheter. Qu'est-ce que l'ennemi est prêt à faire pour te gagner? Pour que tu sois perdu. Perdu pour toi, pour ta vie. Qu'est-ce qu'il est prêt à faire? Il va te séduire. Il va faire miroiter toutes sortes de bonnes choses. Il va dire, tu vois, si tu t'éclates, si tu vas en boîte, si tout ça, tu auras un copain. Et puis si ça va pas, ben écoute, tout le monde fait pareil, toi tu vas changer de copain. Et puis si c'est pas bon, tu vas encore changer de copain. De toute façon, amuse-toi, profite de ta vie. Tu vas à l'église, bon, qu'est-ce que tu vas faire dans une église tous les dimanches? Qu'est-ce que tu vas faire t'enfermer? Regarde, il fait beau, il fait chaud, va à la piscine. Va là, fais ci, fais ça. Il va chercher à t'acheter en te faisant miroiter toutes sortes de choses qui sont belles en apparence, mais qui sont empoisonnées en fait. Parce qu'elle te distrait des choses les plus importantes de toute la vie. Vous connaissez cette histoire, cet exemple un petit peu. Il y a des priorités dans la vie. Il doit y avoir des priorités dans nos vies. Beaucoup de personnes ne font pas attention aux priorités. Et un jour, un professeur a fait cela. Il a pris un grand vase, et il a pris un peu un sachet de sable qu'il avait pris à la mer. Et puis il a pris un sachet de cailloux de gravier. Et puis il a pris aussi un sachet de plus gros cailloux. Et puis il a fait l'expérience, il a dit aux élèves, regardez, je mets le sable. Est-ce que ça rentre tout ça? Il dit, ben non, ou peut-être d'autres, oui, et tout. Il dit, allez, on va mettre le sable. Puis il met le sable, et puis après il va mettre les graviers. Et puis en dernier, il met les cailloux et ça déborde du vase. Il dit, voyez, c'est pas possible, ça rentre pas. Puis un autre, il dit, non, il faut mettre les graviers en premier. Il dit, d'accord, il met les graviers, puis il met le sable, puis il met les gros cailloux, les plus gros cailloux, et ça déborde encore. Il dit, est-ce que c'est possible? Il y en a un autre, il dit, oui, il faut commencer par le sable, et puis après les graviers. Et après, non pardon, par les gros cailloux, par les graviers, et après par le sable. Et bizarrement, j'aurais pu faire l'expérience ce soir, mais dans ce vase, alors qu'on pourrait croire que ça rentre pas, d'un coup toutes les choses sont dans le bon ordre. On met les gros cailloux, puis après les graviers vont se loger dans les interstices, je sais pas comment on dit, dans les petits trous qui restent, et puis le sable va venir encore combler les plus petits trous qui sont là, et tout rentre impeccable. Dans ta vie, peut-être tu dis, j'ai pas le temps pour aller à l'église, j'ai pas le temps pour lire ma Bible, j'ai pas le temps pour prier. J'aimerais te dire, c'est juste une question d'organisation, une question de bon sens, une question de priorité. Et la priorité, c'est le Seigneur Jésus en personne. C'est lui qui peut te sauver, c'est lui qui peut te guérir, c'est lui qui peut t'aider, c'est lui qui t'a sauvé à la croix, toi qui connais déjà le Seigneur. C'est lui qui peut te secourir, te réconforter, t'emmener plus loin et t'emmener surtout jusqu'au paradis. Lui seul, il est la porte, il est le chemin, il n'y en a pas d'autre. Cet après-midi, notre frère nous rappelait ce texte qui nous disait « Il est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Et mon Dieu à moi, mon roi, mon Seigneur, c'est Jésus. C'est pas la star du rock, c'est pas la star de ce que tu veux, de n'importe quel sport, c'est Jésus-Christ. Jésus, le seul nom qui puisse me sauver, le seul nom qui me donne le pouvoir d'accéder au trône de la grâce, au trône de Dieu, pour être béni. Mon fils, si un pécheur vient te séduire, ne te laisse pas gagner, ne te laisse pas acheter. » Et la traduction littérale, c'est « Mon fils, si un pécheur veut te séduire, ne le veuille pas. » Et on pourrait le traduire par « N'y va pas, n'y va pas. » Et peut-être vous avez reçu une invitation à faire quelque chose qui n'est pas bon. Peut-être quelqu'un vous a dit, allez, on va faire un hold-up. Bon, ça c'est flagrant que ce n'est pas bien. Mais je vous donne un exemple. Allez, on va faire un hold-up. N'y va pas. Ah, ouais, ouais. Et tu vois, le culte, eh bien non, on va plutôt aller au restaurant, c'est mon anniversaire. J'aimerais te dire, n'y va pas. Va honorer Jésus, tu gagneras du temps pour plus tard. Tu verras. Parce que le jour où tu n'iras pas bien, ce n'est pas le fait que tu es allé au resto, que tu as fêté bien ton anniversaire, qui va faire que tu vas être en forme et que tu vas avoir une communion avec Dieu pour te secourir, avec Jésus. C'est parce que tu auras passé du temps dans sa présence. Une question de priorité. Et le fils de Salomon, vous savez qui s'est laissé séduire par des jeunes pêcheurs? Le fils de Salomon, on va le lire dans 1 roi, au chapitre 12. Prenez avec moi. 1 roi, chapitre 12 et verset 1. On va faire quelques lectures ce soir. Salomon est mort. Il est mort de vieillesse. Et puis, il arrive là, la venue de son fils qui doit normalement prendre la suite de Salomon. Salomon, sous son règne, il y avait eu vraiment une paix extraordinaire. David, lui, avait dû mener des combats parce qu'il était assiégé de tous les côtés. Mais Salomon a eu ce bénéfice d'être dans la paix. Il a été dans la paix. Et le royaume s'est affermi, le royaume a grandi, etc. Et il prospérait, royaume d'Israël. Et puis vient Roboam, son fils, et on lit, chapitre 12, verset 1. Roboam se rendit à Sichem par tout Israël, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, eut des nouvelles, il était encore en Égypte, où il s'était enfui loin du roi Salomon, et c'était en Égypte qu'il demeurait. On l'envoya appeler, alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vinrent à Roboam et lui parlèrent ainsi. « Ton père a rendu notre joug dur. Toi maintenant, allège notre rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père, et nous te servirons. » Il leur dit, « Allez, revenez vers moi dans 3 jours. » Et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon ou les anciens, son père, pendant sa vie, et il dit, « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple ?» Et voici ce qu'ils lui dirent. Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes, et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards, et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Et il leur dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage à l'aigle le joug que nous a imposé ton père? Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. « Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a rendu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant, et toi, allège-le-nous. Tu leur parleras ainsi. « Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant, et moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi, je vous châtierai avec des scorpions. » Jéroboam et tout le peuple vinrent à Roboam le 3e jour suivant ce qu'avait dit le roi. « Revenez vers moi dans 3 jours. » Le roi répondit durement au peuple. Il laissa le conseil que lui avaient donné les vieillards et il leur parla ainsi d'après le conseil des jeunes gens. « Mon père a rendu votre joug pesant et moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets et moi, je vous châtierai avec des scorpions. » Ainsi le roi n'écouta point le peuple, car cela fut dirigé par l'Éternel. Amen. Et la suite, vous savez ce qui s'est passé? Je remets un peu le contexte. Salomon meurt. Et quand un roi mourait et qu'un autre roi devrait prendre la place, les ennemis, ils étaient à l'affût. Ils étaient là pour aller prendre, pour assiéger le royaume, puisqu'il n'y avait plus de maître, il n'y avait plus de tête, il n'y avait plus personne. Alors il y avait vraiment une rapidité à instaurer ce nouveau roi, le fils. Et Roboam est là, il demande conseil aux anciens, il dit voilà, qu'est-ce que... Le peuple, il se plaint un peu, il dit oh, « on a trop de taxes, aujourd'hui on dirait on a trop d'impôts, voyez ?»« On a trop d'impôts, le travail est trop dur, etc. » Comme chaque veille de présidentielle, eh bien, on le rappelle, le peuple il dit toujours « il y en a trop ». Et les anciens disent « voilà, rends ce service à ce peuple, cette fois-ci, et toujours ils te respecteront, ils auront du respect pour toi, tu seras leur roi, et ce sera bien comme ça. Accorde-leur ce qu'ils veulent, accorde-leur. » Et puis lui, il va laisser de côté le conseil des vieillards, il va aller vers les jeunes qui ont grandi avec lui. Et il va leur demander conseil, ils vont lui dire, toi, voilà ce que tu vas répondre. Vous avez vu, je me suis arrêté un petit peu. Mon petit doigt est plus gros que le rein de mon père. Marque d'orgueil. Ça aurait dû lui mettre la puce à l'oreille. Hein. Tu vois, toi, t'es bien, Roboam. Vas-y, montre ta force. Montre, impose-toi. etc. Et il y a un conseil qui est donné là. Et Roboam va suivre ce deuxième conseil. Il ne va pas écouter les vieillards. La conséquence de cette affaire, c'est que 10 tribus d'Israël, sur 12 tribus, ont refusé de se soumettre à Roboam et de l'avoir pour roi. Et c'était la division de tout un royaume qui était appelé à être uni, à grandir ensemble, à être béni de Dieu. Et parce que ce jeune homme a écouté le conseil de pécheurs qui mettaient en avant l'orgueil, il a fait en sorte que tout un pays, imaginez-vous la France entière, qui est divisée, plus des trois quarts de la France, qui dit, ben, puisque c'est comme ça, nous, on va se choisir notre roi, et qui se séparent, qui font leur nation. Quelque chose de grave. On le lit vite fait, mais quelque chose d'incroyable. Et à cause de ça, il y a une scission. Un peuple qui devait marcher uni, il a été divisé. Et j'aimerais dire à chacun d'entre nous, si quelqu'un vient pour te séduire, te dit, toi, t'es bien, affirme-toi, toi, l'autre, il fait les choses de travers, mais toi, vas-y, affirme-toi, sois encore plus vaillant, etc., et qui vous met en avant. S'il y a des choses comme ça, si vous vous laissez séduire par ce genre d'appel, si vous vous laissez gagner, si vous allez dans cette route, j'aimerais vous dire, vous manquerez à l'Église. Vous manquerez au peuple de Dieu. Et on croit qu'on n'est pas important, un de plus, un de moins. Dans le monde, on dit, un de perdu, une de perdu, 10 de retrouvé. Et on peut dire, mais moi, de toute façon, moi, j'ai pas besoin, ils n'ont pas besoin de moi, et puis de toute façon, tant pis pour eux. J'aimerais vous dire, vous allez manquer à l'Église. Vous allez manquer. Dieu vous aime, vous avez de la valeur. Il veut vous sauver, pas pour rien, mais pour que vous soyez unis avec le reste de ses enfants. Et ensemble, tous ensemble, nous qui sommes enfants de Dieu, bien sûr, Dieu nous veut unis pour travailler dans sa mission, dans sa moisson, pour le salut du monde entier. Ne te laisse pas séduire. Le Seigneur ce soir a besoin de dire à quelqu'un, a envie de dire à quelqu'un, n'y va pas. Ne te laisse pas gagner par ces choses qui sont attirantes et séduisantes. N'y va pas. C'est le premier exemple que j'ai voulu prendre. Un autre exemple dans Genèse. Peut-être des choses séduisantes aussi. Genèse chapitre 39, verset 7. Un autre personnage. On va lire juste trois versets. Genèse 39, verset 7. Il est parlé de Joseph. Joseph, il passe par des moments catastrophiques. Il a une belle vision au départ. Il voit sa famille qui est devant lui et lui au-dessus de sa famille. Il va être élevé, ça devrait l'encourager. Et puis, voilà que par jalousie, ses frères le vendent. Il se retrouve en Égypte, vendu à un grand patron, Potiphar, qui est serviteur de Pharaon, etc. Et il se retrouve dirigeant de toute la maison. J'ai passé des détails puisqu'il s'est retrouvé aussi en prison. À chaque fois, Dieu le bénit, Dieu le garde. Et à un moment, alors qu'il est dans la grande maison de Potiphar, il va se retrouver après en prison, eh bien, voilà ce qui se passe. Verset 7. « Après ces choses, il arriva que la femme de son maître, donc la femme de Potiphar, porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. » Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ? Joseph est quelqu'un d'éclairé. Il sait ce qui est bon, ce qui est mauvais. Et quand la femme lui propose adultère, il va lui répondre. Il va lui résister. Puis à un moment, elle va insister. Je ne veux pas lire toute l'histoire, prendre trop de temps. Mais il y a des moments où la séduction est tellement forte, comme ça a été le cas avec Joseph, elle insistait tellement, qu'à un moment, Joseph a dû fuir. Et quelquefois, la séduction est tellement forte, allez, viens avec nous, puis ça se répète, on résiste une fois, on résiste deux fois, et puis trois fois, et puis au bout d'un moment, mon frère, ma sœur, si jamais c'est vraiment trop dangereux pour toi, fuis. Tu auras toujours l'approbation de Dieu. Il lui arrivait des catastrophes parce qu'en fuyant, elle lui a attrapé le manteau et elle a dit, voilà, il a cherché à me violer. Mais ce n'était pas vrai. Il s'est retrouvé en prison des années à cause de ça, mais Dieu l'a honoré. Et il a fini deuxième personnage de la nation, de toute la nation d'Égypte. Parce que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il l'élève, il l'encourage et il l'utilise. Et quelle bénédiction pour nous que d'avoir l'approbation de Dieu. Peux-tu dire dans ton cœur, moi je sais que je ne suis pas parfaite, que je ne suis pas parfait, que je ne suis pas que je suis pas grand, etc. Je suis peut-être faible dans certaines choses, mais une chose est sûre. Ma vie est en règle avec Dieu. J'ai l'approbation de Dieu. As-tu fait la paix avec Dieu Peut-être tu dis, oui, moi je me suis fait baptiser, tout ça. Je ne te parle pas de ça. Est-ce qu'aujourd'hui, si Jésus revient, tu sais que tu pars avec lui? Tu es sûr que tu parles avec lui? Ça, c'est très, très important. N'entretiens rien qui t'empêcherait d'aller au ciel s'il revenait maintenant ou si ta vie s'arrêtait. Très important. Quelques situations où on doit fuir. Fuir la débauche, fuir le péché, fuir la séduction. Et il y a des endroits dont il vaut mieux s'abstenir. Notre frère, monsieur de Dieu, parlait une fois qu'il y a un tombeau qui doit rester vide. Jésus a laissé le tombeau vide. Et nous, il y a certains tombeaux qu'on doit laisser vides. Si autrefois on vivait comme un patachon, n'importe comment, ça ne doit plus nous retrouver. On ne doit plus se retrouver dans ces choses. Si j'étais vulgaire, mon langage doit être honorable. Doit être vrai devant Dieu et puis saint, qui glorifie Dieu pur. Un langage pur. Si jamais j'allais en boîte de nuit, la boîte de nuit c'est un tombeau. Une boîte où il fait noir. Et puis on est vraiment séduit en boîte de nuit. On peut dire, ouais, j'y vais juste pour danser, mais qu'est-ce que tu cherches là-bas? Qu'est-ce que tu cherches? Je ne parle pas de la danse. Les psaumes disent, louez Dieu par des danses. Je ne vais pas remettre la danse en cause. Dieu dit de faire certaines choses, eh bien, qu'on peut le faire en tout cas. Moi, il n'y a pas de problème. On peut louer Dieu au travers d'une danse, moi, du moins qu'on le fait seul à la maison, qu'on gêne personne, qu'on choque personne, moi, à la limite, voilà, c'est biblique. Mais par contre, ce que je crois, c'est qu'il y a certaines danses qui ne vont pas nous rapprocher de Dieu, mais qui vont nous perdre. Des lieux qui ne vont pas nous rapprocher de Dieu, mais qui vont nous plonger dans une séduction. Vous savez, en boîte de nuit, il y a tous les spots, pouf, 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 la musique et tout. Il y a toutes sortes de choses séduisantes. Ça reluit, c'est beau, c'est bleu, c'est rouge, c'est violet, tout ce que vous voulez. Comme dans les casinos, si vous voyez sur la rocade, j'utilise souvent cette expression, cette image, sur la rocade, vous passez devant un casino, et la nuit, c'est de toutes les couleurs, et si vous étiez dedans, il y aurait plein de musique, plein de bruit, et puis voilà, mais tout ça, c'est de l'illusion, c'est de la perte de temps, c'est du piège, c'est de la séduction. Ne va pas vers ces choses-là. Fuis, c'est pas grave, fuis ces choses-là. Et puis un troisième exemple, l'exemple parfait. Jésus-Christ. Dans Matthieu, chapitre 4, Jésus aussi a été tenté. On a voulu le séduire. Et c'est le plus grand de tous les pécheurs qui a cherché à séduire Dieu, parce que Jésus a séduit Jésus. Jésus, c'est le top niveau. Excusez-moi l'expression, mais Jésus, c'est le top du top. Comme je l'ai dit, Jésus, c'est mon roi, c'est mon Seigneur, c'est celui qui peut tout faire, qui peut pourvoir à tous mes besoins dans ma vie. Et c'est celui à qui je dois toute reconnaissance, toute gloire, tout honneur. Et Jésus, lui qui est le meilleur, il s'est fait tenter par le pire. Et voilà, mais il était bon pour lui résister. Regardez ce qui s'est passé. Matthieu, chapitre 4, verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Tiens, c'est pas le diable qui envoie Jésus dans le désert. C'est à noter. Pour être tenté par le diable, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Troisièmement, le diable transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable ne revient plus jamais et le laissa tranquille. C'est ça qui est marqué? Non. Alors le diable le laissa. Et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Et dans un autre texte, il est dit, cherchant une occasion favorable. Parce que le diable, il ne s'avoue jamais vaincu. Tant qu'il n'est pas en enfer, il cherchera à perdre le monde, en emmener au maximum avec lui en enfer. Jésus se retrouve devant le diable. Et le diable le tente, veut le séduire, veut le faire tomber. Et regardez-vous comment il s'y prend. Première chose, il lui dit, fais un miracle. T'es le fils de Dieu, prouve-le, fais un miracle. Fais un miracle. Première chose qu'il lui dit, fais quelque chose que Dieu ne t'a pas demandé de faire. Et combien de fois le diable va nous pousser à faire des choses que Dieu ne nous a jamais demandé de faire, à nous perdre dans des activités légitimes que Dieu ne nous a jamais demandé de faire. Pour dire, mais moi, je vais me reposer, je vais faire quelque chose, c'est bien de se reposer, etc. Ouais, mais le Seigneur voudrait te parler dans ta chambre, dans l'intimité. Il voudrait que tu sois en communion avec lui. Et c'est un vrai repos de prier Dieu. Jésus, il allait faire du pain. Il allait transformer une pierre en pain. Il y a pire que ça comme péché, qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est un péché. que de s'octroyer un pouvoir, une autorité que Dieu ne nous a pas demandé de faire, quelque chose que Dieu ne nous a pas demandé de faire. Vous allez dire, mais Jésus, il était, oui, mais il était parfaitement soumis. Et même là, Dieu ne lui avait pas demandé de transformer les pierres en pain, son père. Et bien, il savait très bien qu'il fallait se soumettre à Dieu. C'est l'Esprit qui l'a conduit dans le désert, il fallait qu'il passe par ce moment de jeûne, de désert. Et c'est facile de trouver d'autres solutions. Et le diable, des fois, il nous pousse à rentrer dans des activités, dans l'activisme, faire des choses qui paraissent très très spirituelles, mais qui vont nous piquer du temps qu'on devrait donner à Dieu, simplement dans l'intimité avec lui. La première force pour résister à la séduction, c'est d'avoir une intimité avec le Seigneur. Et Jésus répond bien sûr par quelque chose qui vient de la parole de Dieu. Il sort les Écritures et il dit, voilà, son arme à lui, c'est les Écritures pour résister. Son bouclier, c'est la foi qui vient de la parole. Il est écrit. Très important. Deuxième chose, le diable le tente en lui disant « Suicide-toi ». En clair, c'est ça qu'il lui dit « Jette-toi du haut du temple ». Plus suicidaire que ça, il n'y a pas. Et oui, parce que ce n'était pas quelque chose que Dieu lui avait demandé. S'il l'avait fait, il serait passé à côté du plan de Dieu. Il serait mort, il ne serait pas allé à la croix pour nous sauver. Peut-être. « Suicide-toi ». Tu vois, mais t'inquiète pas, tu vas pouvoir. T'inquiète pas, ça sera meilleur après. Tu seras en paix. Tu seras tranquille. Parce qu'il écrit que Dieu nous aime, etc. On ira tous au paradis, suicide-toi. Le diable, il va transformer les paroles, vous voyez. Il y aura un purgatoire, t'inquiète pas, ça va. Il n'y a pas de purgatoire dans la parole de Dieu. Et le Seigneur, il répond encore par une chose de la parole de Dieu. Peut-être quelqu'un dit, pour moi, c'est trop tard, j'ai trop de péchés, je peux plus. Je me suicide spirituellement, c'est-à-dire j'arrête. Allez, je retourne dans le monde. Je me laisse à nouveau séduire dans les choses que j'ai abandonnées et quittées. Ne fais pas ça, n'y va pas, ne saute pas. Et puis troisièmement et dernièrement, il l'emmène sur une montagne très élevée. Il montre tous les royaumes et leur gloire. Et là, alors qu'il ne peut pas l'écraser, il va lui dire, tiens, je te donne toute la gloire de tous les royaumes. Et le diable veut parfois nous séduire en disant, tiens, t'es grand là, t'es grand, vas-y. Montre-nous, je te donne tout, t'inquiète pas. Par contre, il faut que tu te prosternes et tu m'adores. Vous savez qu'adorer, c'est rendre un culte. Et rendre un culte, c'est obéir. Il dit, obéis-moi, écoute-moi, fais ce que je te dis. Je te donne toute la gloire, je te donne tout ce que tu veux. Tu veux être une star dans le monde, tu veux de la gloire, de la reconnaissance, une notoriété. Pas de problème, t'inquiète pas, je vais te donner ça. Fais juste ce que je te dis. Laisse-toi influencer, laisse-toi séduire. Et là encore, on doit résister au diable. Et s'il y a un endroit où on ne doit pas aller, un endroit où le Seigneur nous dit, n'y va pas, ne te laisse pas gagner, je vous fais une dernière lecture. Dans Matthieu chapitre 11, verset 28, Jésus dit au contraire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Il y a des endroits où il ne faut pas aller, mais il y a un endroit où il faut surtout aller, c'est dans la présence de Jésus. Je demande aux musiciens de se préparer pour le chant qui sera pendant l'appel, mais j'aimerais terminer avec ça. Il y a des endroits où j'aimerais te dire n'y va pas. On en a vu quelques-uns en revue, je te laisse soin de te placer devant Dieu pour savoir de quoi il te parlait ce soir. Peut-être qu'il a déjà fait, t'as déjà convaincu, t'as dit tu vois ça c'est pour toi ce soir. Ça c'est pour toi mon frère, ma sœur. Mais j'aimerais te dire qu'il y a un autre endroit où Dieu voudrait dire fonce, vas-y, cours. Dans la présence de Dieu, dans la présence de Jésus. Dans la présence de celui qui a donné sa vie sur la croix pour payer pour tes forfaits, pour te donner la vie éternelle. Va dans la présence de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Peut-être qu'il y a un combat dans ton cœur. Vous pouvez venir, les musiciens. Vous pouvez venir. Peut-être qu'il y a un combat dans votre cœur. Peut-être qu'il y a une lutte dans ton cœur. Peut-être qu'il y a un combat, tu sais qu'il y a des choses qui te tentent, etc. Mais tu sais que Dieu a meilleur pour toi, Dieu a plus pour toi, Dieu veut te bénir, Dieu a des projets de paix, d'espérance, il y a toutes sortes de choses pour toi. Et il y a un combat parce que tu es quand même séduit, il y a des choses qui t'intéressent. J'aimerais te dire, n'y va pas, fuis ces choses, fuyez la débauche, fuyez l'idolâtrie, fuyez ces choses. Quelque chose est plus important que Jésus dans ton cœur, la télé, les choses comme ça. Arrête de te plonger là-dedans. Ça nourrit ton âme de mauvaises choses qui t'éloignent de Dieu. Ça te distrait. Ton Dieu, que ce soit Jésus. Comme Thomas qui disait, mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Et j'aimerais nous dire à chacun, on va courber nos fronts ce soir, vraiment. Réfléchissons, laissons pendant un instant peut-être le Saint-Esprit nous parler. Est-ce qu'il y a quelque chose dans mon cœur, dans ma vie, que j'entretiens, que je fais, et qui attriste le Saint-Esprit, qui attriste Dieu, qui peut-être pourrait me perdre, et pour laquelle Dieu a travaillé mon cœur pour que ce soir on entende, n'y va pas, ne te laisse pas gagner. Fuis ces choses. Et pendant que le Seigneur te montre petit à petit dans ton cœur ce qui l'attriste, ce qui lui déplaît, eh bien prends la décision de t'éloigner de ces choses. Prends la décision de couper avec ce que le Seigneur voudrait que tu abandonnes. Peut-être c'est des relations comme Roboam qui avait des copains, des amis qui ont grandi avec lui et ses amis te perdent. Ses amis t'influencent mal, ses amis te donnent de mauvais conseils. Pourtant c'est tes amis, il y a une souffrance dans ton cœur, tu voudrais tellement aller plus proche de Jésus, mais il y a quand même ces gens qui te conseillent et puis qui sont tes amis, qui ont été avec toi dans des moments difficiles et là. Le Seigneur aimerait te dire ce soir, fuis ces personnes. Un jour tu seras suffisamment fort ou forte pour leur parler du Seigneur Jésus à ton tour et pour qu'ils puissent découvrir l'amour de Dieu. Mais en attendant toi, protège-toi, garde-toi parce qu'ils pourraient gagner ton cœur. Une fois, deux fois, trois fois, t'as résisté. Mais un jour, qui sait si tu céderas pas? Ne joue pas avec ces choses. Ne te laisse pas séduire. Et le cri de Salomon qui parlait à son fils, Roboam a dû l'entendre, c'est le cri de Dieu qui est un père aussi, qui veut être un père pour toi. Jésus disait, priez notre Père qui est aux cieux. Souviens-toi que Dieu, c'est pas ton patron, c'est pas un despote, c'est pas un mauvais qui veut ton malheur, qui veut te briefer, t'empêcher de vivre. C'est un Père qui t'aime et qui nous rappelle ce soir, n'y va pas, ne te laisse pas gagner, fuis ces choses. Amen. Amen. Seigneur Jésus, je te prie vraiment par ton Saint-Esprit de parler à chacun d'entre nous. Moi le premier, je veux aller plus profondément dans ta présence, dans une communion avec toi et j'ai besoin de toi. Et chacun d'entre nous, peut-être tu nous montres quelque chose les uns après les autres. C'est peut-être de la colère, c'est peut-être du mensonge, c'est peut-être un objet, c'est peut-être une activité, peu importe. Ce soir, Seigneur, donne-nous le courage, la force de caractère, la force, puisque c'est ton caractère que tu crées en nous, de résister, de fuir ces choses et de nous approcher de toi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, le tombeau est trop lourd. Seigneur, sans toi, on ne peut rien faire, mais avec toi, on ira jusqu'au bout et on ira jusqu'au ciel. Que ton nom soit béni. Merci Jésus. Amen.